Comment ça va, Ricky?
Ça va super bien, les gars, super bien. Ça va vite, ça va vite. J'envie les gens qui ont un été, un long fleuve tranquille avec un livre et un drink. Puis moi, c'est pas ça. C'est dans le tapis, let's go. Puis des téléphones qui arrêtent pas, un chum qui m'appelle. Puis veulent jaser de la vie, disons.
À qui le dis-tu? Je vois pas la face d'Éric.
Non, tu mets jamais ton. Tu mets pas ta caméra, c'est dommage.
Ah,
Tu verrais que j'aurais un poker face.
Ouais, poker face. Il y a eu absolument aucune réaction, c'était beau à voir.
Ah, je t'adore, Eric. Écoute, parlons des. Tu sais ce que je disais tantôt, il y a des performances incroyables au Tour de France présentement. Tadej Pogacar montre qu'il. Il est le roi de la montagne, parce qu'on est dans les montagnes depuis 2 jours, puis c'est vraiment lui qui est le roi. Et là, il trône au-dessus de toute la montagne du vélo également. Mais à chaque fois, et je m'amuse à aller voir ce qui se passe sur les différents médias sociaux du Tour de France, puis tout ce qu'on voit, c'est des commentaires sur les gens qui parlent de dopage et de tricherie, alors que même s'il y a des doutes, sont testés, Eric. Même les vélos sont testés.
Les vélos sont testés. Ils ont une machine qui vaut 50 000 piastres ou plus. Et puis, il y a des tests régulièrement sur les vélos. On pèse les vélos. Ils ont comme une machine infrarouge. On regarde où est la chaleur. On regarde s'il n'y a pas quelque chose d'assisté au niveau électrique. On décortique les vélos. Oublie ça, là. Tu sais, je veux dire, je dis pas qu'il n'y a pas des tricheurs. Je te dis qu'on fait tout en sorte pour essayer de les attraper s'il y en a. Alors, et particulièrement ces champions dont tu parlais, Vingegaard, qui a quand même gagné 2 fois le Tour de France contre Pogacar. Et Pogacar, lui, qui va peut-être gagner son 4e. Ils sont testés 2 fois plus qu'une.
Ben, peut-être, Eric. Peut-être, je pense qu'on peut jaser un peu. Le peut-être
non,
est
écoute,
pas mal 95-5.
Oui. Non, mais demain, c'est un autre monde. Non, il n'est pas à l'abri d'une défaillance. Il a vécu la défaillance il y a 2 ans. Là. Il n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, il arrive quelque chose. Moi, je ne garderai pas comme Pogacar parce que je pense qu'il est meilleur. Mais je te le dis parce que je sais que tu aimes beaucoup Vingegaard. Il est tellement meilleur
beaucoup,
que les autres. Là.
J'aime beaucoup Poggi aussi, là, mais c'est tellement
niaiseux.
Mais
il n'est pas loin de Pogacar. Tu regardes aujourd'hui les temps. Sur 13 km en montagne, c'est rare des contre-la-montre en montagne, mais sur ce 13 km-là, écoute, il est 36 secondes en arrière de Pogacar, mais il est des lunes en avant des autres. Tu comprends? Il est extraordinaire, Vingegaard. Moi, je pense qu'il souffre encore de sa méga chute là, l'année passée. Il est rétabli. Mais je te dirais que il y a quelque chose qui n'est pas à 100% clairement, parce que moi, je l'ai vu les 2 années où il a battu Pogacar. Pogacar, il y a des moments où il n'était pas capable de le suivre. Et contre la montre aussi. Alors, tu sais, ils sont tellement près l'un de l'autre. Je pense que Pogacar a fait des ajustements au niveau de son entraînement, de sa nutrition. Et puis, ben, cette année, regarde, il est impérial. Mais on a encore une dizaine d'étapes à faire. Donc, ce que je te dis, c'est que oui, il va probablement gagner. Là, il y a presque 4 minutes, 4 minutes, 7 secondes d'avance sur Vingegaard. Mais c'est comme un quart arrière qui joue pas de bloqueur à gauche. Pas parce qu'il est remplacé. Il n'est pas remplacé, là. Il manque son meilleur gars en montagne. Fait qu'il est vulnérable. Et il réussit quand même, Pogacar, à lui attaquer. Fait que c'est extraordinaire. Mais par rapport à ce que tu disais tantôt d'entrée de jeu, les gens sont cyniques ou sceptiques, je peux comprendre. Parce que ça fait 45 heures, on est à mi-parcours dans le Tour de France. Ça fait 45 heures et 45 minutes qu'il est assis sur son vélo, Pogacar.
Ben, c'est fou, Ren.
Et tu regardes ça, puis Guillaume Boivin, il est 2 heures et 44 minutes de plus. Ça rajoute 2 heures de plus. C'est extraordinaire ce que ces gens-là font. C'est fabuleux.
Puis Michael Woods avec son.
C'est ça, il a montré qu'il était le patron pour cette année.
Michael Woods avec son petit arrêt impromptu de il y a 2 jours là, que j'ai raconté en ondes, qui était assez comique. Là. Il a dû s'arrêter dans le véhicule motorisé d'un fan sur le bord de la route en plein milieu d'une épreuve. Je sais pas si tu as vu ça passer.
Oui, ben là, il y a des contestations par rapport à l'équipe. Là. Ils avaient le premier tech, tout à fait, c'est ça.
Mais enfin, bref, juste pour te dire, je viens de, pendant que tu nous donnais les détails de tout ça, je suis allé voir sur Bet99 là, pour te donner une idée. La cote de Tadej Pogacar pour gagner le Tour de France, c'est à 1,05. Jonas Vingegaard est deuxième à 13. Ça, c'est ouais. loin, puis pas à peu près. Après ça, tu as Florian Lipovits qui est ouais. à 51 et Remco Evenepoel qui est à 151.
Ouais. C'est... Lui, c'est le grand perdant aujourd'hui. C'est le grand perdant.
Ouais.
Mais je te dirais que, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai une affection particulière pour Pogacar parce que je l'ai découvert en 2020, qui est arrivé à la fin, à la toute fin du tour pour gagner le tour contre Roglic. J'ai une affection pour ce jeune garçon-là, c'est sûr, mais je vous le dis, en vélo, je pense pas que ça va arriver, mais c'est pas impossible. C'est pas comme si tu mènes 7-0, il reste 2 minutes là, au hockey. Il y a encore des étapes de montagne importantes. Il pourrait avoir une défaillance. Puis tu sais, parce que c'est pas comme si Vingegaard, il est pas bon. Il est très bon. Il essaye, mais clairement, ils ont pas les bonnes stratégies. Puis c'est juste que Pogacar, puis Vingegaard est tombé au printemps. Il y a une petite commotion cérébrale. Fait que, est-ce qu'il est encore affecté par tout ça? On ne sait pas. Mais ces deux gars-là, pour les prochaines années, ils vont continuer à avoir un duel extraordinaire.
Ah, c'est incroyable. Puis c'est, je vais vous poser la question à notre armée, là, au peuple. Est-ce que ce duel-là entre les deux, tu sais, puis le fait, on en jase ensemble, Eric, puis on est passionné de ça. Puis là, check bien Max Lalonde rembarqué dans la conversation parce que lui aussi vient d'accrocher sur le vélo, puis solide à part ça. Est-ce qu'un duel comme ça, là, un duel de tous les instants entre deux jeunes prodiges, ça vous accroche dans un sport, tu sais? Puis en Formule 1, par exemple, en 2021, là, c'est, Abu Dhabi 2021, c'est la course la plus regardée de toute l'histoire entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. T'sais, ça, c'est un exemple. Mais au niveau du cyclisme, tu sais, je pense que tout le monde suit le Tour de France comme ça en été, tu sais, de près ou de très loin, là. Mais est-ce qu'un duel entre ces deux-là, ça vous accroche? T'sais, vous pouvez nous texter au 514-790-0919 sur le YouTube Live. Moi, je trouve ça fascinant. Tu sais, t'as dit, je préfère Vingegaard. Écoute, je les aime les deux. Puis ça, c'est le fun d'avoir un sport dans lequel tu peux être content si les deux gagnent. Ma seule allégeance envers Vingegaard, comme je l'ai dit, c'est parce qu'il roule un Cervélo, qui est une compagnie à la base canadienne, et que c'est ce que je roule aussi. Fait que c'est la seule allégeance que j'ai. Je sais, c'est niaiseux, mais c'est comme ça.
Non, puis tu sais, les couleurs, les goûts, tout ça, les choix qu'on fait chacun personnel, ça nous appartient. Mais moi, je vais te dire, là, tu sais, il y a eu des grands duels. Si je regarde dans la piscine, en athlétisme, c'est le temps d'une épreuve. Là, c'est sur plusieurs années c'est dans un événement qui dure, comme je te dis, 3 semaines. Ben moi, j'ai rarement vu ça parce qu'on peut-être que dans quelques années, on va affirmer que c'était peut-être les deux plus grands cyclistes de l'histoire du cyclisme. Puis c'est difficile de faire des comparatifs. Les vélos sont différents d'il y a 35 ans, 40 ans, 50 ans. Tu sais, maintenant, on travaille beaucoup avec le wattage, ce qu'on faisait pas avant. On se prépare différemment, on s'entraîne différemment, on a des méthodes différentes, on est encadré différemment. Fait que c'est difficile de comparer, mais ce que ces deux gars-là font, il n'y en a pas beaucoup dans le sport que tu peux dire. Tu sais, c'est comme si LeBron et Michael avaient joué exactement dans la même époque.
Ben oui, ou le Big Three au tennis, là, tu sais.
Oui, exact. Et puis même le Big Three au tennis sont décalés, tu sais, sont décalés de quelques années chacun. Fait que je te dirais que moi, c'est quelque chose qui me fascine. Pogacar, ben, comme je te disais cette semaine, c'est deux personnalités différentes. Pogacar, c'est l'extroverti. Vingegaard, c'est l'introverti. Mais c'est deux gars qui se respectent énormément, qui veulent se battre quand ils sont sur le vélo. Une fois que la course est terminée, ils ont énormément de respect l'un pour l'autre. On l'a vu cette semaine.
Quand Pogacar a chuté, oui.
Vingegaard a dit au peloton, on l'attend. Et je suis convaincu que l'inverse aurait été la même chose. Pogacar ne veut pas gagner parce que son adversaire direct est tombé.
Exact.
Fait que, tu sais ça. Donc, c'est pas terminé. C'est génial. C'est des images fabuleuses qu'on, ce qu'on voit présentement autour de France.
Ah, c'est beau.
C'est deux
beau.
Grands champions.
C'est beau. Ce qui est beau aussi, c'est le nouveau contrat de TJ Watt et surtout la réaction de son grand frère, JJ, qui lui a fait 2 millions de moins que lui dans toute sa carrière. 2 millions de moins que les 3 prochaines années Le salaire de TJ Watt qui sera de 123 millions de dollars, alors que si je ne m'abuse, JJ en a fait 120. Et JJ a écrit un message sur les médias sociaux hier en disant « Hey là, je vous le dis, si jamais ce gars-là me laisse aller toucher à mon portefeuille quand on s'en va super ensemble, je ne sais pas ce que je vais faire. »
C'est drôle, puis il y a quelques années, la grande vedette, c'était JJ, n'est-ce pas?
Ben oui, absolument. Il était
personne
dominant au possible.
Venir TJ. C'était pas TJ, là. C'était JJ. JJ a été aux prises avec des blessures, s'est retiré, a une belle carrière, là. Tu sais, JJ a 114 sacs, TJ en a 108 présentement. C'est drôle parce que de son 123 millions qu'il vient de signer, garanti, c'est 108 millions, il a 108 sacs présentement. Alors là, TJ va le surpasser probablement, puis c'est un contrat de 3 ans. Il est aussi le joueur qui n'est pas carrière arrière dans la NFL, qui est le mieux payé. Il vient de dépasser Jamar Chase et Myles Garrett, qui lui, Garrett, est 2 ans plus jeune. Garrett va avoir 29 ans en décembre. TJ va avoir 31 ans en octobre. Fait que c'est un contrat qui ravit tout le monde dans l'entourage des Steelers. Les joueurs avaient dit à l'organisation, il ne faut pas qu'on le perde. Les partisans voulaient que TJ reste. Ça a été plus difficile pour TJ à la fin de saison l'année passée. Il a eu 11 sacs, mais dans les 5 derniers matchs, ça avait été plus difficile. Il a dit qu'il allait essayer de faire des ajustements. Mais écoute, c'est tout un joueur de football et probablement quand il aura terminé, il aura surpassé JJ, ce qu'on n'aurait pas pensé possible il y a à peine 7-8 ans.
Hey, j'ai une question pour vous, les gars. Donc, TJ Watt qui devient le joueur qui n'est pas un carrière qui est le mieux payé, c'est un chasseur de corps. Il dépasse Jamar Chase, lui, c'est un receveur. Pour vous, c'est quoi la position la plus importante après le poste de carrière? C'est quoi la position après carrière qui devrait être la mieux payée? Prenez pas en considération le marché, là, mais en termes de valeur, de ce que cette position-là apporte à l'équipe, c'est quoi celle qui devrait être la plus importante?
Ben, receveur de passe, là, à mon avis, là, ce qu'on voit présentement, mais je veux dire, les chasseurs de corps comme ça, c'est parce que TJ Watt, tout dépend du contexte de ton organisation puis de ton équipe. TJ Watt, c'est le Ray Lewis des Steelers actuellement. C'est le cœur, l'âme, pas de la défensive de cette équipe-là, comme son frère JJ l'était à l'époque.
Ouais.
Alors, il mérite chaque scène de son entente, un peu comme Myles Garrett avec les Browns, là, du fiasco complet que cette organisation-là est. S'il te plaît, ça te prend Myles Garrett, je perds-les pas, tu sais, qui est sur la ligne défensive également. Fait que tout dépend des contextes. Pour moi, dans la position globalement, c'est celle de receveur de passe, mais selon les positions, quand t'en as un qui est dans la conversation du meilleur joueur de la ligue, ça prend ça, ça prend un salaire très important qu'il y a avec. Je sais pas ce que t'en penses, Éric.
Ben, moi, je suis d'accord un petit peu avec toi, sauf que j'apporterai une nuance. T'sais, si ton joueur le plus important dans ton équipe, c'est ton carrière, ben, il faut qu'il soit capable de lancer le ballon à des bons receveurs. Je te dirais que dans le football moderne, ton ailier rapproché est peut-être plus important parce qu'il est encore plus polyvalent. On l'a vu avec Tom Brady et le Gronk, on l'a vu avec Kelsey et Mahomes. Moi, je pense que l'ailier rapproché, puis je te dirais pas loin en arrière, là, ton bloqueur du côté faible, là, ton bloqueur du côté aveugle du corps arrière, il doit être excessivement bon et excessivement bien payé.
Ils sont bien payés aussi de nos jours.
Pardon?
Ils sont bien payés de nos jours aussi.
Oui, c'est ça. Parce que ces gars-là, c'est je te dirais, les deux positions pour moi. Parce que après ça, au football, les gars, pour moi, ça se passe à la ligne mêlée.
C'est un sport de tranchées.
Mais c'est beaucoup un sport next man up. Tu comprends? Il y en a tellement des bons, là. Tu sais, je te dis pas que c'est un mauvais contrat, TJ Watt, mais à 31 ans, il va avoir 34-35 à la fin de son contrat. Va-t-il encore avoir 7, 8, 9, 10, 11 sacs par année? Est-ce qu'il n'y aura pas un jeune qui va arriver universitaire qui va être plus fort, plus rapide et plus endurant? Parce que TJ, il l'a dit, tu sais, il va falloir qu'il commence à s'ajuster. Va-t-il jouer toutes les séries? C'est à voir, tu sais. Alors, mais c'est sûr que c'est important. Mais on le voit, il y a des très, très bons chasseurs de carrière qui ne gagnent jamais. Alors, mais c'est ça le marché, lui, c'était un Steelers.
Ouais.
Et puis, il y a eu ce montant-là parce que les Steelers voulaient le garder. On ne voulait pas de controverse de ce côté-là.
Est-ce que, selon Eric Auziel, Aaron Judge est en voie de devenir le meilleur joueur de l'histoire des Yankees? Parce que ça pourrait être possible.
Ben, en fait, ce qui arrive, c'est que Ian O'Connor de Athletic pose la question parce que c'est le joueur qui a atteint 350 circuits dans les majeurs le plus rapidement de l'histoire du baseball majeur. Puis des joueurs de balle Il en a passé beaucoup, là. Alors, et là, il va se rapprocher de Joe DiMaggio, de Yogi Berra et Alex Rodriguez pour des coups de circuit dans l'uniforme. Rodriguez, c'est pas l'ensemble de sa carrière, c'est de l'uniforme qu'il a obtenu avec les Yankees. Puis il va se rapprocher, il pourrait peut-être dépasser. On a eu le Core Four avec les Maple Leafs, mais avec les Yankees, c'est Babe Ruth, Lou Gehrig, Joe DiMaggio et Mickey Mantle qui, eux autres, trônent en haut. Ruth, en passant, a eu 714 circuits dans sa carrière, mais 659 seulement avec les Yankees. Je dis seulement parce qu'il y en a eu avec les Red Sox. Fait que si on compile seulement avec les Yankees, il pourrait, là, s'il finit cette année avec 55 circuits, disons que je lui donne 55 circuits, il faudrait que les 8 prochaines années, il y ait une moyenne de 36 circuits par année pour pouvoir dépasser Babe Ruth. C'est pas impossible parce qu'il y a 31 ans, il a déjà dit que quand son contrat va venir à échéance en 2031, il aura 39 ans, il voudra signer un autre contrat. Naturellement, il faut qu'il reste en santé, mais au niveau statistique, il pourrait devenir le frappeur de circuit le plus prolifique de l'histoire des Yankees, ce qui est quand même surprenant parce qu'il est arrivé à 25 ans des majeurs. C'était pas un bon frappeur quand il est arrivé, il était dans les mineurs. Il s'est ajusté. La seule chose que tout le monde discute quand on parle d'Aaron Judge, c'est où est le championnat?
C'est la Série mondiale.
Ouais. C'est à quelle heure que le championnat arrive?
Parce que c'est un peu, on pourrait rattacher un peu cette discussion-là au Canadien de Montréal avec Carey Price. Quand c'est une franchise aussi mythique que les Yankees ou le Canadien, une franchise qui a autant d'histoire, est-ce que tu peux être considéré comme le meilleur joueur, le plus marquant peut-être de cette franchise-là, si t'as pas la bague, alors que toutes les autres légendes de la franchise y ont la bague?
Ouais, c'est ça. Ruth en a 7, mais il y en a 4 seulement avec les Yankees. Gehrig n'a 6, DiMaggio n'a 9, Mantle n'a 7. Mais tu sais, Derek Jeter, c'était pas un frappeur de circuit.
Non.
Mais Derek Jeter, il est dans la discussion d'un des meilleurs joueurs. Tu sais, Rivera, le releveur. Mais on retombe tout le temps à la même chose, les gars. Le fameux championnat. Puis tu sais, Barry Bonds, là, on va exclure les drogues de performance. Là. Barry Bonds, qui est jusqu'au moment où on se parle, à moins que le baseball change, le frappeur de circuit le plus prolifique de l'histoire du baseball, n'a jamais gagné de série mondiale. Donc, il y a plusieurs personnes qui disent en plus, ben, il n'a jamais gagné. T'sais. Puis, Walkie, il y en a des grands qui n'ont jamais gagné. Fait qu'il y a toujours cette discussion-là que je trouve injuste, personnellement. Moi, Carey Price, c'est un sport d'équipe. Tu sais, Olivier, Judge, il avait joué au basket, puis il a le physique pour jouer au basket, là, ouais. 6 pieds 7, 280 ouais. livres. Il a exactement le même poids que le Joker, là. Jokic, ouais. Il pèse 280 livres. S'il avait joué au basket, il aurait eu bien plus d'impact et probablement gagné des championnats que dans le baseball majeur où ton meilleur joueur n'a pas autant d'impact qu'au basketball parce que tu as 15 joueurs, dont 3-4 qui jouent tout le temps.
Ça, c'est sûr. C'est juste que, tu sais, c'est les Yankees de New York. C'est une franchise qui est tellement iconique, tellement d'histoire.
C'est ça.
Ça fait quoi, 15 ans qu'on n'a pas de championnat, mais là-bas, on s'en peut plus, là. Aaron Judge, les gens étaient fâchés contre lui quand il avait sous-performé par moment en série l'an dernier, là.
Il n'avait pas été très bon. Pis... Non. Mais ce que je trouve injuste, les gars, c'est... Tu sais, jusqu'à une certaine époque, tu pouvais comparer les joueurs. Mais maintenant, là, comment peux-tu comparer Mick David avec l'époque de Guy Lafleur? C'est pas le même équipement.
Non, c'est...
C'est même plus la même façon de jouer.
Et même au baseball...
Plus on avance... Moi, on peut comparer les gars parce que c'est des 50, 60, 70 ans d'écart. Tu peux plus faire ça.
Et même au baseball, avec les positions, tu sais, qui est le plus grand entre, Mariano Rivera et Aaron Judge? Ce ne sont même pas à la même position, tu comprends?
C'est tellement dur à comparer. Fait que, tu sais, les gars, c'est des... Tu sais, Judge, le physique de Judge, il y a eu des gars imposants dans le baseball majeur à travers l'histoire. Mais physique à la Judge, il n'y en a pas eu beaucoup, là. Ce gars-là, c'est un spécimen au niveau physique. Il est très bon. C'est une bonne personne. Il est très sympathique. Une bonne personnalité. Fait que, tu sais, il y a encore des années, mais je te dirais que on pensait que Babe Ruth, son record, serait jamais battu avec les Yankees. Mais on disait la même affaire de Gretzky, le nombre de buts comptés. Puis regardez Ovechkin ce qui est arrivé. Fait qu'il faut pas gager contre ces gars-là. C'est juste une question, va-t-il rester en santé?
Oui, on lui souhaite. Et sais-tu quoi, quand je suis allé au Yankee Stadium, justement, ma douce me disait à peu près les mêmes choses sur Aaron Judge que tu viens de dire.
Ça... Elle a pas de goût. d'où, ta blonde? Oui,
alors, écoute, c'est correct. C'est correct, t'as le droit. Oh, wow. C'est qui? C'est qui? Il est grand. Il est grand, lui, hein? Il a des bonnes pattes. Et, hein? C'est beau. Regarde-le, là, c'est correct, là. Parfait.
Il est marié, puis il vient d'avoir un bébé, là. Ça veut rien. De nos jours, ça veut rien dire. La loyauté, ça veut plus rien dire.
Ah, ça, c'est sûr.
Salut, mon chum. Merci pour cette belle semaine ensemble.
Bye bye.
Très beau week-end. Salut, mon chum. Éric Auziel.